This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
Les grossesses arrêtées, communément appelées fausses couches, font encore partie des impensés de la maternité. Alors oui, on en parle peut-être de plus en plus, mais cela ne doit pas effacer le fait que c'est encore quelque chose de bien souvent passé sous silence, comme tout ce qui vient contrecarrer une image idéalisée de la grossesse. Mon invitée d'aujourd'hui, elle a donc décidé de lever le voile sur les fausses couches en général et sur ces deux fausses couches consécutives en particulier. Elle s'appelle Diane Léonore et elle a même écrit un livre à ce propos. Un livre intitulé « Deux corbeaux et une cigogne » paru en début d'année aux éditions Michalon dans lequel elle raconte son parcours pour devenir mère. Expatriée au Maroc, Diane est également la créatrice d'un site web et d'un podcast, Gloria Mama, qui aborde la question de la maternité et de la parentalité aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement aborder ensemble la question des fausses couches et de son envie de sensibiliser le plus de femmes possible. Selon les auteurs d'un rapport publié récemment dans la prestigieuse revue médicale britannique The Lancet, on recense 23 millions de grossesses arrêtées chaque année dans le monde. Alors il est urgent non seulement d'en parler, mais aussi d'informer et surtout d'écouter celles qui ont traversé cette épreuve. Les entretiens d'Au revoir podcast, épisode 4, deux corbeaux et une cigogne, de la fausse couche au bonheur d'être parent. Alors bonjour Diane, je suis très heureuse de t'accueillir dans Au revoir podcast.
Bonjour Sophie.
Diane, ensemble on va parler des fausses couches, de la maternité et de ton livre. Ton livre il s'intitule « Deux corbeaux et une cigogne, de la fausse couche au bonheur d'être parent, le récit d'un chemin vers la maternité ». Est-ce que tu pourrais nous expliciter ce titre qui en dit long, en fait, sur ton parcours, puisque j'imagine que les deux corbeaux, eh bien, ce sont les deux fausses couches que tu as vécues.
Tu as tout à fait raison. Les corbeaux font référence à mes fausses couches et la cigogne à la naissance de ma fille. En réalité, les oiseaux choisis, le corbeau et la cigogne, ce sont des messagers, ils apportent des nouvelles. Le corbeau est associé aux mauvaises nouvelles qu'on préférait ne pas recevoir. Tandis que la cigogne, au contraire, c'est un oiseau de bon augure qui est assimilé à la fertilité et à la naissance. Ce sont vraiment deux oiseaux que tout oppose. Il y en a un qui est noir, qui symbolise la mort, l'autre qui est blanc, qui est synonyme de vie et de renouveau. Donc j'ai choisi ces oiseaux, finalement, pour le pouvoir de suggestion qu'ils avaient. J'avais pas envie que dans le titre, il y ait le terme de fausse couche ou d'arrêt naturel de grossesse. J'avais envie d'évoquer, de suggérer, et je trouve que les images sont bien plus parlantes parfois que les mots eux-mêmes qui sont extrêmement durs.
Justement, est-ce que tu pourrais nous resituer un petit peu, toi, ce que tu as vécu en termes de fausse couche? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu étais sensibilisée, le fait que le chemin vers la maternité peut être ponctué de rencontres auxquelles on ne s'attend pas, et notamment la rencontre avec des corbeaux?
On s'est lancé dans l'aventure de la maternité avec mon mari en étant très enthousiaste, très heureux de ce projet de fonder une famille. J'avais 32 ans, et j'étais extrêmement naïve sur ce sujet-là. Je savais bien évidemment ce qu'étaient les fausses couches, mais pour moi j'étais pas concernée, j'avais pas de problème gynécologique particulier, j'étais jeune, en bonne santé, mon mari aussi. Et donc je m'imaginais pas que mes grossesses pouvaient se terminer brutalement et que je pouvais vivre ces arrêts naturels de grossesse. J'ai fait plusieurs fausses couches, j'ai fait une première fausse couche, puis une deuxième, avant d'avoir ma fille. Et je dois dire que ça a été vraiment des grandes claques, justement parce que j'étais complètement ingénue et que je m'imaginais pas que je pouvais perdre mes bébés.
Ton livre, il s'ouvre sur les fausses couches. À partir de quel moment est-ce que tu as décidé d'écrire, puis de partager publiquement ton histoire? Je crois que dans le livre, à certains moments, tu parles déjà de l'écriture et du fait que ça t'a fait du bien d'écrire. Donc j'imagine que tu as peut-être écrit ce que tu as vécu en direct, dans l'instant présent, et que c'est plus tard que tu as décidé de rendre ça public. Alors je ne sais pas si on t'a contacté pour ça ou si c'est une envie que tu as eue toi, mais explique-nous un petit peu comment tu as perçu cet acte d'écrire, sans doute cet acte un petit peu thérapeutique d'écrire.
Donc ce livre, il a été écrit à partir du moment où j'étais en congé maternité et j'ai fini de l'écrire quand ma fille est née, toujours en congé maternité pendant ses siestes. Mais il y a un certain nombre de passages qui ont été écrits pendant que j'étais en train de faire mes fausses couches, pendant que j'étais en train de vivre les choses, parce que j'avais besoin de les écrire. Pour moi, l'écriture, c'est un côté effectivement thérapeutique. Écrire, pour moi, ça me permet, en fait, si tu veux, d'y voir plus clair dans toutes mes émotions et de les déposer et de pouvoir prendre aussi un peu de recul par rapport à elles. Et c'était parfois des moments tellement intenses, tellement durs, que j'avais vraiment besoin effectivement de les déposer quelque part. Alors, je n'avais jamais écrit auparavant une traître ligne destinée à être lue. Et ce qui m'a aussi donné l'envie d'écrire, c'est que j'ai partagé ce projet avec un écrivain et un médecin, Martin Winkler. Et voilà, je lui ai dit que j'avais envie d'écrire sur ce sujet-là. Et contre toute attente, en fait, il m'a répondu de manière bienveillante en m'encourageant dans mon projet, en me disant que c'était des sujets dont on parle pas assez, que ça remue beaucoup de choses chez les femmes et que c'était important d'en parler et que mon témoignage pouvait être précieux. À partir du moment où j'ai eu son retour, je me suis aussi sentie engagée moralement à écrire ce livre. J'ai aussi voulu écrire parce que je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'écrits sur ce sujet. Quand j'ai fait mes fausses couches, je me suis rendue dans une librairie, dans même plusieurs librairies, et puis je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de témoignages, hein. Ou en tout cas dans la librairie dans laquelle je suis allée, il n'y avait pas de témoignages, il n'y avait que des livres pratiques sur la grossesse. Et je trouvais que ça manquait en fait, j'avais envie de pouvoir lire d'autres histoires que la mienne, et je trouvais pas. J'ai écrit avec plusieurs objectifs en tête. Le premier objectif, c'était vraiment de lever le voile sur les fausses couches, parce que je trouvais que c'était très tabou, qu'on n'en parlait pas assez. Moi, je suis quand même vraiment tombée des nues en faisant mes fausses couches. Comme je te le disais, bien sûr, je savais ce qu'était une fausse couche, mais je me sentais pas concernée. Or, c'est quand même une femme sur quatre, 200 000 femmes en France par an. Donc ça me semblait important d'écrire sur ce sujet. Ça me semblait aussi important de créer mon podcast Gloria Mama et à chaque fois de poser la question de la fausse couche pour qu'on se rende compte à quel point c'est quelque chose de fréquent. Je voulais vraiment libérer la parole sur ce sujet des fausses couches et du deuil périnatal. Ça, c'était mon premier objectif. Mon deuxième objectif, c'était de sensibiliser les soignants au vécu des femmes et des couples pour qu'ils se rendent compte de ce qu'on peut traverser et qu'ils soient toujours dans une approche bienveillante et dans un accompagnement réel de la fausse couche. Une fausse couche, c'est pas uniquement un médicament qu'on note sur une ordonnance en renvoyant la femme chez elle. Pour moi, ça nécessite un réel accompagnement et un accompagnement psychologique aussi, avant, pendant et après sa fausse couche. Et mon troisième objectif, c'était bien sûr d'apporter de l'espoir et du réconfort aux femmes et aux couples qui pouvaient traverser ces épreuves-là, pour qu'ils se sentent aussi moins seuls. Parce que dans une fausse couche, on peut se sentir extrêmement seul. On incite les femmes à ne pas parler de leur grossesse avant les 3 premiers mois fatidiques, là où le risque de fausse couche est le plus important. Et donc du coup, elles ne parlent pas de leur grossesse, mais elles parlent pas non plus de leur fausse couche. Et elles se retrouvent dans des situations de solitude extrêmement importantes, notamment si elles n'ont pas la chance d'être accompagnées par du personnel soignant à l'écoute bienveillant, et si elles frappent pas malheureusement à la porte d'associations comme Agapa par exemple, qui peuvent les aider dans leur cheminement de deuil. Et ensuite, j'avais aussi envie de sensibiliser l'entourage, de montrer à l'entourage ce par quoi un couple pouvait passer, ce qu'il pouvait traverser, pour qu'il soit peut-être plus soutenant pour le couple.
Alors pour en venir aux fausses couches, justement, elles sont statistiquement banales, on va dire, ça touche énormément de femmes, et paradoxalement, les prises de parole autour de la fausse couche sont très peu banales. Est-ce que ce décalage, le fait de ne pas pouvoir vraiment en parler, d'avoir du mal à prendre la parole sur ces questions-là, tu l'as ressenti, toi, au moment où tu as fait tes fausses couches, au moment où tes grossesses se sont arrêtées? Est-ce que tu as ressenti un peu le poids de ce tabou?
Alors bien évidemment, moi aussi, je me suis sentie seule à un moment donné dans mes fausses couches, notamment parce que aussi tout autour de moi, mes amis tombaient enceintes et j'avais l'impression d'être la seule à faire, à vivre ces grossesses arrêtées. Oui, j'ai senti que c'était vraiment un sujet dont on parlait pas beaucoup. Je me suis sentie seule. Mais j'ai eu quand même énormément de chance parce que tout de suite j'ai rencontré du personnel soignant bienveillant. Alors j'ai rencontré deux types de personnes en fait. J'ai rencontré des soignants qui ont pas forcément été très délicats, qui ont eu des propos qui m'ont fait mal. Et puis j'ai quand même assez rapidement rencontré une sage-femme qui a vraiment été dans une écoute attentive, bienveillante et qui était aussi extrêmement disponible. Ça m'a permis de pouvoir aborder tous les sujets auxquels je pensais, ça m'a permis de pouvoir déverser toutes mes émotions sans me contenir. Et puis il y a eu aussi ma mère qui a été extrêmement présente, ben, mes parents qui ont été présents et particulièrement ma mère qui a aussi vécu des fausses couches et le deuil périnatal. Et donc du coup j'ai pu vraiment bénéficier d'une écoute et ça c'était très important pour vivre les choses de la meilleure manière qui soit. Et puis il y a aussi mon époux qui a été présent, qui a vécu ces fausses couches avec moi. Voilà, ça a été aussi important dans cette traversée houleuse de la maternité. Donc oui, j'ai senti ce poids du silence, mais j'ai eu la chance de pouvoir m'en extirper rapidement parce que je me suis entourée des bonnes personnes, que ce soit médicalement parlant ou au niveau de mon entourage.
Alors il y a un aspect en fait que j'ai trouvé très intéressant. Quand on n'a pas vécu de fausse couche, on obtient beaucoup d'informations, mais surtout on a accès à une parole à laquelle on n'a pas forcément accès d'habitude. Déjà si dans notre entourage personne n'a fait de fausse couche ou personne n'ose prendre la parole sur cette thématique, bah en fait dans ton livre on a quand même la parole d'une femme, on a son expérience, ses émotions, la manière dont ces fausses couches se sont déroulées. Par rapport à la première fausse couche que tu as faite, tu as obtenu beaucoup d'informations auxquelles tu n'avais jamais eu accès avant. Comment est-ce que ça s'est déroulé pour toi? Est-ce que tu as eu l'impression d'être bien sensibilisée entre, on va dire, méthode naturelle, méthode médicamenteuse et méthode chirurgicale?
Alors tu touches un point important, Sophie, concernant les méthodes qui sont proposées aux femmes. En France, on te propose principalement des méthodes médicalisées. Donc au début, non, je pensais vraiment en fait qu'il fallait vite que je prenne ce médicament pour me séparer de cette grossesse. Et je comprenais qu'on n'était pas dans une situation d'urgence, mais qu'il fallait pas traîner. C'était cette solution-là ou alors le curetage. vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait que ces deux alternatives. Et c'est en discutant avec ma sage-femme que je me suis rendu compte qu'il y avait une autre possibilité qui était celle de ne rien faire. Le fait que ma sage-femme partage son expérience, qu'elle partage aussi avec moi les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes, et ben ça m'a permis vraiment de cheminer et de faire le choix qui me correspondait. Et pour moi, c'est très important. C'est vraiment un message que j'essaie de faire passer à chaque fois que j'ai la chance d'être interviewée. C'est vraiment qu'il faut que le personnel soignant propose toutes les alternatives qui sont possibles et pas que les alternatives les plus utilisées ou les plus faciles pour eux. Mais il faut qu'ils proposent toutes les solutions pour que la femme, en conscience, puisse choisir ce qui est le plus adapté à sa situation et ce qu'elle préfère. Faut savoir que, par exemple, il y a des avantages et des inconvénients sur chacune des méthodes. La méthode naturelle, il faut accepter d'attendre, en fait, donc il faut accepter de porter son bébé mort dans son ventre jusqu'à ce que le corps s'en sépare. Donc l'inconvénient, c'est que tu sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais quand ça arrive, en général, les contractions, elles sont moins douloureuses parce qu'elles sont pas provoquées chimiquement. Tout comme dans un accouchement, hein, finalement. Et l'avantage aussi, c'est que finalement, le temps qui passe, ça te permet de te préparer à ce qui va arriver. Donc pour moi, c'est important que les femmes, elles aient bien conscience des propositions, de leurs avantages, de leurs inconvénients, et qu'elles choisissent ce qui leur correspond le mieux. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est d'être accompagnée, quel que soit le choix que tu fais, et d'être accompagnée psychologiquement avant, pendant et après ta fausse couche.
Par rapport à cette première fausse couche également, tu as vécu ce que tu dis être une fausse couche belle et poétique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que j'imagine que derrière ces mots-là, il ne s'agit pas d'effacer la peine et la tristesse, mais il s'agit de montrer quelque chose de la fausse couche, de montrer que ça peut se passer, on va dire, dans les meilleures conditions possibles, quand on vit une fausse couche de manière éclairée, peut-être. Donc voilà, je te laisse me dire, toi, ce que t'entends par fausse couche belle et poétique.
Alors je suis contente, Sophie, que tu aies relevé cette phrase dans mon livre qui peut être choquante pour les femmes qui vivent des fausses couches. À un moment effectivement donné, je dis que ma fausse couche était belle et poétique. Bon, bien évidemment, c'est provocateur parce qu'une fausse couche, c'est ni beau ni poétique, c'est de la souffrance physique, psychologique, c'est un projet qui s'achève, c'est de la douleur, du sang. Mais ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est que quand on faisait les choix qui nous correspondaient, on pouvait être acteur et on pouvait vivre cette fausse couche de la manière la moins traumatisante possible, de la meilleure manière qui soit. Et me concernant, quand j'ai fait ma fausse couche, donc en Islande, en pleine nature finalement, dans une nature absolument merveilleuse et protectrice aussi, il y avait un réel alignement entre le physique, ce que j'étais en train de vivre, et le psychologique. J'étais prête à vivre ce que j'étais en train de vivre, et ça avait quelque chose de beau, ça avait quelque chose de simple, et ça avait effectivement quelque chose de poétique. J'étais véritablement en paix avec ce qui était en train d'arriver. Et puis j'étais en train de vivre un processus naturel dans un état de nature, en fait, puisque j'étais dans la nature. Pour moi, ça a été quand même important de laisser ces mots, même si je me suis questionnée sur le fait de les laisser ou pas, parce qu'effectivement, ça montre qu'on peut vivre les choses de la meilleure manière possible qui soit, même si elles sont douloureuses, même si elles sont difficiles. Ça montre également qu'il y a tout un cheminement pour arriver à cet état, qu'on n'y arrive pas d'un claquement de doigts, et qu'il faut du temps, mais j'avais envie de montrer que c'était possible aussi parce que quand on regarde sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes nous partagent leur expérience, et ce sont des expériences qui sont psychologiquement extrêmement difficiles aussi à lire, et moi j'avais envie de montrer autre chose, qu'autre chose était possible.
En revanche, il me semble que ta deuxième fausse couche, tu ne l'as pas vécue du tout de la même manière. Et c'est un petit peu la preuve que même quand on fait plusieurs fausses couches, on n'a pas toujours la même expérience et le même ressenti. Déjà, comment toi t'as accueilli cette nouvelle que tu faisais une deuxième fausse couche comment tu t'es sentie à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelles ont été tes émotions?
Alors quand je suis tombée enceinte une deuxième fois, j'étais confiante. C'était une deuxième grossesse qui a été très peu médicalisée, contrairement à la première. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant de faire mon échographie du premier trimestre, j'ai commencé à avoir quelques saignements. Donc on est allé aux urgences avec mon mari, et là on nous a annoncé qu'il y avait une discordance entre ce qu'on voyait à l'image et ce qu'on devrait voir à l'image. Et comme j'étais absolument certaine des dates, je savais que c'était fini. Même si les soignants, encore une fois, ils te disent toujours, concernant les fausses couches précoces, ben, il faut attendre, on va refaire une échographie dans une ou deux semaines pour vérifier l'évolution, parce qu'il peut toujours s'agir en fait de grossesse tardive. Mais dans mon cas, je savais que c'était pas le cas, donc je savais que c'était fini. Ça a été un nouveau choc, une nouvelle grande déception. Là, j'ai commencé à avoir peur. Parce que, avec mon mari, on s'est dit, bon, si ça se trouve, en fait, on a un problème. Si ça se trouve, c'est que le début de grandes difficultés pour arriver à concevoir un enfant. Donc, je dirais qu'on a été à nouveau sidérés de voir que ça recommençait. Je me souviens de mon mari qui disait mais même cause, même conséquence en fait, on a un problème. Il va falloir qu'on le trouve. Et puis aussi une autre émotion qui était la colère, parce que ça nous arrivait deux fois et voilà, on a trouvé ça injuste. J'avais envie de dire non mais allez frapper ailleurs, c'est bon, j'ai déjà eu ma dose en fait, j'ai déjà eu mon quota de fausses couches. On n'a pas mérité ça.
Du point de vue de la prise en charge médicale de tes fausses couches, tu expliques notamment comment ça s'est passé avec les internes, avec les médecins, gynécologues, sages-femmes. Tu parles beaucoup, oui, tu donnes beaucoup de détails sur ce qu'ils t'ont dit, ce qu'ils ne t'ont pas dit. Qu'est-ce que tu aurais aimé dans la prise en charge de tes fausses couches? Qu'est-ce qui aurait pu être différent? Qu'est-ce qui serait à améliorer selon toi?
Alors, quand on fait une fausse couche, bien souvent, on va aux urgences, on nous envoie vers les urgences, et dans les urgences, même si elles sont spécialisées, on se retrouve à côté de femmes enceintes qui sont sur le point d'accoucher. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Donc, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait les deux extrêmes, quoi. La personne qui était en train de faire une fausse couche et une personne qui allait donner vie à son bébé dans les heures qui suivaient. J'ai trouvé que c'était pas très délicat. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait des accueils séparés. La deuxième chose qui me semble importante, c'est de limiter le nombre de soignants qu'on voit et de construire avec eux une relation durable. Parce que en fait, à chaque fois que tu vas aux urgences, tu rencontres des soignants différents. En général, ce sont des internes. Ce sont souvent des personnes qui ne sont pas non plus du tout formées au deuil périnatal. Donc moi, je trouve que j'ai quand même eu de la chance parce que à chaque fois, j'ai eu des personnes qui ont pris le temps, voilà, qui ont pris du temps avec moi, qui ont pris le temps d'écouter mes questions. Mais bon, c'est pas encore une fois le cas de toutes. Donc je trouve que c'est important d'avoir un référent qui va nous suivre avant, pendant et après cette fausse couche. Et donc de pas multiplier les interlocuteurs. Et puis j'aurais aimé tout de suite avoir les trois alternatives proposées et pas seulement deux. J'aurais aimé tout de suite avoir l'ensemble des informations et pas devoir faire plusieurs soignants pour avoir la totalité des informations.
Environ les deux tiers de ton livre sont consacrés d'une part à ton envie d'être mère, à ton chemin vers la première grossesse, puis la description de ces fausses couches. Alors quand je dis description, c'est toute une narration sur le déroulé des événements, sur ta prise en charge, sur tes émotions, sur une mise en perspective par rapport à certaines autres expériences, par rapport à des chiffres. Tu donnes également des conseils. Il y a des moments où tu t'adresses directement à tes lectrices ou à tes lecteurs. Le dernier tiers, il est consacré à ta troisième grossesse qui débouche sur la naissance de ton enfant. Est-ce que l'idée, c'était vraiment de montrer qu'une grossesse qui succède à des fausses couches, Ça n'a rien d'anodin, en fait. Le vécu qu'il y a eu dans les mois qui ont précédé va forcément influencer la perception que l'on va avoir de cette grossesse.
C'était important pour moi de parler de cette grossesse-là et de cet accouchement-là, parce que les fausses couches, c'est pas du tout anodin. Je pense que si j'avais pas vécu des fausses couches, je serais restée dans cette espèce d'ingénuité concernant la maternité, où tout est beau, tout est rose. Là, mes fausses couches, elles ont profondément marqué la manière de vivre ma troisième grossesse, parce que j'avais peur, bien évidemment, que l'histoire se répète. Vous faites une première fausse couche, vous faites une deuxième fausse couche, qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas faire une troisième fausse couche ? Donc, effectivement, on vit sa grossesse avec beaucoup de prudence, avec de la crainte, qui peuvent régulièrement vous envahir. Pour moi, c'était aussi important de montrer l'impact d'une fausse couche sur le vécu de la grossesse suivante. J'ai réussi à me rassurer, en tout cas, sur la bonne vie de mon enfant à partir du moment où elle bougeait dans mon ventre. Mais les trois premiers mois, je les ai vécus avec beaucoup d'angoisse. J'avais vraiment peur que l'histoire se répète. J'avais l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. Et ça m'a pris du temps de prendre confiance dans la vie de ce bébé. Et je rajouterais que après, quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai vécu ma grossesse et mon accouchement au Maroc. La première chose que j'ai faite quand j'ai su que j'étais enceinte, c'est trouver une sage-femme, parce que je savais que en fait mes fausses couches étaient pas si loin que ça, et que même si j'avais vécu une grossesse qui s'était bien déroulée, que j'avais donné naissance à ma fille et que tout allait bien, je savais que mes fausses couches, elles n'étaient pas si loin que ça, et que j'allais avoir besoin d'aide. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu peur de perdre mon fils pendant toute ma grossesse, et même après les 4 mois de grossesse. Alors après, c'était peut-être parce que j'étais en plein lancement de mon podcast Gloria Mama, que je parlais beaucoup de deuil périnatal, que j'étais beaucoup en lien avec des femmes qui avaient des histoires extrêmement difficiles. Peut-être que c'est dû à ça, mais c'est aussi dû au fait que, ben, comme je le disais, vivre des fausses couches dans son corps, dans sa vie, c'est pas anodin. Et en fait, en tout cas, pour ma part, ça a marqué la troisième grossesse, mais ça a aussi bien marqué la quatrième grossesse, la grossesse de mon fils.
J'avais envie de te demander, qu'est-ce qu'il t'a apporté, ce livre ? Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu l'as eu pour la première fois dans les mains ?
Quand j'ai eu mon livre la première fois dans les mains, bien sûr, j'étais fière, j'étais contente de pouvoir le proposer aux autres, parce que pour moi, ce livre, c'est vraiment ma contribution à lever le voile sur les fausses couches. Ça a été ma pierre à l'édifice pour lever les tabous. L'écriture de ce livre, ça a été pour moi le moyen de faire du bien aux autres, de partager mon expérience en vue d'aider les autres, de réconforter les autres, de les accompagner aussi dans leur chemin, dans leur histoire qui est différente de mon histoire. Ça m'a apporté ce bonheur-là du partage et de l'accompagnement des autres dans une histoire qui est différente de la mienne, certes, mais qui est aussi commune par un certain nombre d'aspects. Pour moi, c'était aussi important d'écrire pour ne pas oublier, pour garder une trace de mon histoire, de ces moments extrêmement forts de ma vie, bien que douloureux. Et puis, j'avais aussi envie de pouvoir les partager, ces moments, avec mes enfants, qu'ils puissent lire aussi leur histoire, finalement, qu'ils puissent aussi connaître ces vécus de fausses couches consécutives. Ça me paraît important de laisser une trace transparente pour mes enfants et pour nous de ce qu'a été notre parcours de la maternité. Et puis ce projet Gloria Mama, qui est donc l'écriture d'un livre d'une part, la création du site internet gloriamama.com et du podcast, pour moi c'est vraiment un projet à part entière, un projet 360 finalement, où je propose mon histoire, mais je vais au-delà de mon histoire en interviewant d'autres personnes, et je propose tous ces messages clés qui se dégagent de mon histoire, mais également de celle des autres au sein d'un site internet. je suis quand même fière en fait d'avoir accompli tout ça et de pouvoir surtout l'apporter aux autres et que ça puisse leur faire du bien, que ça puisse leur être utile.
Pour finir, qu'est-ce que tu aimerais dire aux couples qui traversent des fausses couches, qui ont du mal à concrétiser leur projet de parentalité? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, toi, Diane, avec le parcours qui est le tien, avec ce parcours en duo également, qui est le vôtre avec ton compagnon, puisqu'il a été présent pendant tes fausses couches? Tu en parles souvent dans ton livre, c'est pas quelque chose que tu as vécu toute seule. Mais voilà, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces couples qui peut-être vont écouter cet épisode et qui du coup auront, j'espère, l'envie de lire ton livre?
J'aimerais déjà leur dire que il faut pas culpabiliser parce que ça n'est pas de leur faute. Ça n'est pas de leur faute ce qui se passe. Ils peuvent pas contrôler la bonne évolution de leur bébé et donc il faut pas s'en vouloir. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Le deuxième conseil que j'aimerais donner aussi, c'est vraiment d'exprimer ses émotions, de pouvoir partager aussi ses émotions avec son compagnon, parce qu'on vit pas les choses forcément de la même manière. Et c'est important de pouvoir savoir où l'autre en est dans son cheminement. Je dirais aussi que c'est important de vivre les choses en duo, en tout cas nous concernant. Ça a été important de pouvoir associer mon mari à cette fausse couche et de pouvoir la vivre finalement, les deux fois on l'a vécu ensemble. Ça nous a permis aussi de nous projeter dans une future grossesse plus facilement à deux. Je pense que c'est aussi important de se laisser le temps. Parce que quand on vit une fausse couche, c'est quand même un choc. Bah déjà, l'annonce est un choc. Et donc, c'est important, je pense, de se laisser le temps d'accepter, d'apprivoiser cette idée, de réfléchir sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut, d'écouter ses émotions et de prendre des décisions en adéquation avec qui on est et ce qu'on souhaite. Et aussi, enfin, de choisir les personnes à qui on en parle, de vraiment s'entourer de personnes bienveillantes qui sauront vous écouter, que ça soit côté médical ou côté familial ou amical.
Cet entretien touche à sa fin et je te remercie, Diane, d'avoir évoqué ton parcours dans Au revoir podcast. Je vous rappelle que Diane Léonore a écrit le livre « Deux corbeaux et une cigogne » paru aux éditions Michalon en janvier 2021. Vous pouvez également retrouver Diane sur le site gloriamama.com. Si vous souhaitez voyager et découvrir la grossesse et la parentalité au Japon, au Maroc, au Burundi ou encore aux États-Unis, allez écouter de toute urgence le podcast Gloria Mama, disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Je vous mets tous les liens directs et les ressources dans la description de l'épisode. La semaine prochaine, nous continuerons à parler de fausses couches et plus particulièrement des aspects médicaux liés aux grossesses arrêtées en compagnie de Myriam, gynécologue à Paris. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au revoir podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et en attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.